Elle m'a dit,
l'Amérique est mon pays, mais Paris est mon chez-moi.
Des Américaines à Paris.
Les Américains à Paris, ils sont venus parce que ils ont été très prohibés en Amérique. Ils ne pouvaient rien exprimer. On ne pouvait pas écrire, ni peindre, ni rien faire de ce qu'on voulait. Et ils venaient de se libérer de beaucoup de choses puritaines. Et alors, naturellement, ils sont venus à Paris pour trouver la liberté, pour pouvoir boire et écrire et s'exprimer.
Sylvia Beach, une de nos héroïnes. Mais d'abord, 1900, le 4 juillet, Lafayette, leur voilà. Sa statue est inaugurée au Carrousel du Louvre. En pleine exposition universelle, on hisse le drapeau américain en haut de la Tour Eiffel. L'amitié franco-américaine est solennellement réaffirmée. L'année suivante, 1901, nos statistiques commencent à distinguer les Américains parmi les résidents étrangers. Il apparaît qu'ils sont plus riches que les autres, c'est pas une surprise. Qui imaginerait à l'époque qu'un Américain pauvre passerait pour un fantaisiste? Autre évidence, ou considérée comme telle, les Américains résident surtout à Paris. Et quand c'est pas à Paris, c'est à Neuilly peut-être. En revanche, un chiffre est moins attendu. Les Américains de Paris sont majoritairement des Américaines. Ces Américaines sont célibataires, mariées, divorcées, veuves, mais enfin, il ne faut pas se fier au seul état civil officiel. Isadora Duncan, la danseuse, affirme qu'elle a quitté les États-Unis parce que l'exercice des sens y est comme aboli par le puritanisme. Sylvia Beach, qu'on entendait donc il y a un instant, libraire et éditrice, présente notre capitale comme sa libératrice. Bien des Américaines dont nous allons parler vont goûter au plaisir saphique, comme on disait à l'époque. Celles qui se préoccupent encore de se justifier disent que si on ne veut pas perdre le goût des hommes, il faut pratiquer celui des femmes. En fait, c'est dans beaucoup de domaines que ces Américaines revendiquent l'ambiguïté sexuelle et elles jouent aussi un rôle de passage et d'intermédiaire. Vinaretta Saint-Gère, héritière des machines à coudre, lesbienne qui forme un couple d'affection avec un prince de Polignac homosexuel, fait de son mécénat un axe essentiel de la vie musicale française. Sylvia Beach, donc, ose l'aventure de l'édition d'Ulysse de James Joyce. Joyce, assez indifférent aux habitudes salonnières et aux mœurs des uns et des autres, avait ceci de commun avec les femmes dont nous allons parler, d'abord vivre dans sa vérité.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Et Gérard Bonal, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Historien du théâtre, un de nos grands spécialistes de Colette, chez Talendier, un livre des Américaines à Paris. Bon, vous n'allez pas vous présenter comme un sociologue de la présence des Américains en France. Vous n'êtes pas du genre à lire tellement les statistiques que je citais, ni non plus les registres des églises paroissiales de Paris. Vous avez lu l'annuaire des Américains en France, par contre.
Je l'ai pas lu en entier, mais je l'ai consulté.
Qu'est-ce que c'est?
Écoutez, c'était quelque chose. J'ai consulté, je crois, l'année 1896, qui donnait les noms des Américains qui étaient en France, les adresses qu'ils faisaient, comme ça que j'ai découvert. Il y avait des pharmaciens, il y avait des bijoutiers, il y avait toutes sortes de métiers comme ça, des assureurs américains et des banques, bien entendu, déjà.
Oui, mais c'est pas nécessairement à cela que vous allez vous intéresser le plus. Parce que j'ai l'impression que vous faites de l'histoire par plaisir, vous.
Oui. Voilà, j'écris par plaisir, hein, de toute façon.
Ben, beaucoup d'Américains et d'Américaines sont venus à Paris au nom du principe.
Au nom du principe de plaisir, bien entendu.
Oui, mais enfin, parce que aussi, la France, cocorico, c'était une école. La France, c'est quand même plus vieux, et en même temps, c'est pas si âgé que ça, parce que c'est capable de se renouveler et de former les Américains et les Américaines. C'est ce qu'ils pensent, en tout cas, les Américains.
Oui, parce qu'il faut voir quand même que, encore au 19e siècle, la République américaine est très jeune, et par exemple, il y a très peu de musées encore qui sont ouverts. Jusqu'à une date assez tardive, on ne voit pas de musées importants. Et par exemple, Mary Cassatt se plaint.
Mary Cassatt, c'est
la peintre. Se plaint d'être obligée de travailler en copiant des vieux plâtres antiques, des reproductions de plâtres antiques. Alors que quand elle va venir à Paris, elle va trouver des modèles, elle va trouver les musées, le musée du Louvre, qui est déjà un des plus grands et des plus beaux du monde. Et là, elle va pouvoir travailler vraiment sur le motif, comme on dit.
Et puis, ce qu'apporte aussi la France aux Américains les plus fortunés, c'est le blason. La possibilité du blason. Bon, alors, on ne peut pas ne pas parler de la polémique qui a été lancée dans le Figaro, je crois, en 1895, quand Bonnie de Castellane, grand dandy parisien, a épousé une femme, je crois qu'on la voit souvent en photo, avec son jeune et brillant époux, comment dire, un peu difforme, quoi, un peu contrefaite.
Un peu simiesque, d'ailleurs.
Oui, mais elle s'appelait Gould.
Elle s'appelait Gould, donc l'argent allait avec. Mais vous savez, cette controverse dont vous parlez, dont le Figaro s'est fait l'écho, de l'autre côté de l'Atlantique, il y avait aussi une controverse, on reprochait à ces jeunes femmes de dilapider en quelque sorte une fortune américaine au profit d'un titre de comtesse, de duchesse, de princesse, et on estimait que les partis américains valaient bien hein, ces blasons français, européens, parce qu'il y a aussi des Anglais, là. L'héritière Vanderbilt, pardon, a épousé un Anglais, là, Marlborough.
Mais ensuite, elle va épouser un Français. Il y a quand même une citation qu'il faut que vous fassiez. On a une auditrice, Michel Ressier, qui nous dit qu'il n'y a pas assez de citations dans votre émission. Quand on reproche à Bonnie de Castellane d'avoir épousé une dame, peut-être, qui n'est pas tout à fait de toute beauté, qu'est-ce qu'il dit ?
Il répond, elle est belle vue de dos. Dot, autrement dit.
Alors, on va prendre le cas d'une famille riche, qui peut redorer le blason de familles françaises plus anciennes, mais qui n'ont plus peut-être les mêmes moyens que naguère. Vous allez reconnaître le nom de cette famille.
Écoute, cette musique, c'est l'histoire de Saint-Germain.
De ses débuts dans l'industrie au succès d'aujourd'hui, Saint-Germain développe dans la maison l'esprit de création.
Le monde souffrant de la crise, Saint-Germain s'est battu
pour que chacun économise et crée de plus en plus. Pour coudre avec savoir-faire, c'est Saint-Germain, facile de coudre en Saint-Germain.
Saint-Germain, des machines utiles et pratiques.
Saint-Germain.
Bon, on aura des musiques moins prosaïques tout à l'heure, mais enfin, il faut bien commencer par le fondement. La famille Singer, j'allais vous dire, les inventeurs de la machine à coudre.
Non. Ah. Le père, Isaac, mérite Singer, hein. Aux États-Unis on prononce Singer, en France Singer, n'est pas l'inventeur de la machine à coudre. Il travaillait dans une entreprise, c'était un ouvrier, hein. C'était quelqu'un de très simple, il travaillait dans une entreprise qui faisait des machines à coudre, et il s'est aperçu que ces machines à coudre ne valaient rien, mettaient un temps fou, faisaient des points énormes, qu'on ne pouvait pas faire un travail perlé, comme on dit, avec ces machines, et il a amélioré la machine. Et chaque fois qu'il a apporté une amélioration, il avait le bon réflexe de prendre un brevet. Ce qui fait que c'est ainsi que, peu à peu, de brevet en brevet, il a constitué une énorme fortune.
Et lui, il était capable de donner des dots à un nombre incroyable d'enfants, ou un héritage au fils, parce que de je ne sais combien de lits, il a eu je ne sais combien d'enfants.
Eh bien, écoutez, le compte n'est pas exact, mais on pense que c'est ou 22 ou 23 enfants. Donc, de deux épouses différentes et d'une multitude de maîtresses.
On va s'arrêter au destin de trois enfants, seulement, voilà. Si vous le voulez bien. Isabelle Singer, je le prononce à la française, parce que oui, elle épouse qui à Paris ?
Le duc de Cazes.
Ouais. L'héritier de la dynastie industrielle, voilà. De Cazeville. Bon, elle va mourir assez jeune. On va s'intéresser davantage, si vous le voulez bien, au numéro 2. Paris, vous prononcez comment ?
Bon, je prononcerais Paris.
Oui, mais lui devait aimer Paris-Saint-Germain.
On l'a appelé Paris parce qu'il est né à Paris.
Ouais. Oui. Et alors lui, il a le goût des Américains artistes.
Oui, parce que il va avoir une grande histoire, qui est une histoire d'amour, avec Isadora Duncan.
Donc, Isadora Duncan, rappelez-nous. Oui, bien sûr, l'écharpe, prise voilà, dans la roue de la voiture dans les années 20, mais là, on est avant 14.
Au moment, où il va favoriser sa carrière. Isadora Duncan, qui a rénové la danse, la danse classique, en reprenant les recettes et les figures de l'Antiquité grecque, rêve de monter une école de danse. Et Paris Singer va financer cette école, en quelque sorte, voilà. Elle aura avec lui un enfant.
Et maintenant, voici. Alors, le prénom est extraordinaire. Vinaretta.
Oui. C'est un nom indien.
Ah. Et elle a d'ailleurs une allure de divinité. Elle est froide comme une falaise.
C'est un grenadier de la garde, même, vous pouvez dire physiquement. Une femme costaud, très dure. Elle ressemble à un clergyman, vous voyez, ce côté, l'œil bleu glacier, comme ça, la parole brève, coupante. Tous les témoins de l'époque disent qu'elle marmonnait entre ses dents serrées.
C'était à cause de son accent ?
Je ne sais pas, je crois que c'était une manière. Et sa mère avait le même défaut, disons.
Intimidante, quand même.
Très intimidante, très intimidante. Voilà, comme tous les timides, elle était intimidante.
Alors ça, c'est Vinaretta. Alors, imaginez, elle est assez jeune, un monsieur qui a le double de son âge, une sorte de grand oiseau, un volatile, mince, et dont vous dites qu'il avait le crâne, parce qu'il était chauve, bien sûr, rose vieux thé. Mm-hmm. Et alors, c'est qui, lui ?
Lui, c'est le prince de Polignac, Edmond de Polignac, qui est le petit-fils de la favorite de Marie-Antoinette, et le fils, du ministre de Charles X.
De sinistre réputation.
De sinistre réputation.
Celui qui a été renversé par la révolution de 1830. Révolution,
voilà, ouais. Exactement.
Enfin, lui, il est très artiste de tempérament, il fait pas de politique.
Il est inoffensif, oui.
Non, vous dites que c'est un bon compositeur.
Ah oui, inoffensif sur le plan politique. Mais en revanche, c'est un bon compositeur. Je dis ça un peu de confiance, je vous avoue, parce que j'ai pris mes renseignements auprès de musiciens, parce qu'on ne l'entend jamais. Je ne sais même pas s'il y a des enregistrements de ces musiques. Mais des gens que je connais, musiciens, m'ont dit que c'était quand même très intéressant, avec un renouveau. Et d'ailleurs, il était très apprécié, par exemple, de Debussy et de Fauré également.
Alors, quand même un mot du mariage, qui est à peu près concomitant avec celui de Gould et Castellane, et qui va beaucoup mieux réussir. Mais madame est lesbienne et monsieur est homosexuel.
Ça fait
des bons couples, pensez-vous ?
Écoutez, c'est pas moi qui tenais la chandelle, si j'ose dire.
Non, mais vous avez pris des renseignements.
J'ai pris des renseignements, c'était un excellent couple. Et d'ailleurs, on a les lettres, hein. On connaît les lettres du prince. Lorsqu'il est, chaque année, il va dans une cure en Suisse, et il écrit à Vinaretta, et ce sont des lettres d'amoureux, presque. Hein. Ma chère Winnie, mon adoré Winnie. Il y a là un mariage, on va dire, de raison, en quelque sorte. Hein. Chacun faisait, sinon une fin, du moins, je faisais quelque chose de favorable pour son développement. Et je pense que ce mariage, peu à peu, est devenu un mariage de tendresse, d'affection. Et d'ailleurs, après la mort du prince, en 1901, la princesse, Vinaretta, n'a pas cessé de parler de lui, de défendre sa musique, de la faire jouer.
Alors la musique, c'était de première importance pour lui et pour elle, qui, dans son salon, d'abord dans un format réduit, puis quand elle a fait raser sa maison, dans un format plus grand, dans la maison renouvelée, rue Cortambert, avenue Henri Martin, dans le 16e arrondissement, donnait des séances fort courues, dont se souvient Jean Vienner.
Elle donnait des séances que de choses absolument admirables, c'est-à-dire qu'elle faisait venir Stravinsky de Suisse quand il y était, puis de Paris ou d'ailleurs quand il était ailleurs, pour qu'il vienne jouer lui-même des choses. J'ai joué chez elle, notamment, la première audition de son concerto pour piano et orchestre. Moi, je faisais l'orchestre au second piano. Elle l'a commandé comme ça, comme si elle en avait absolument besoin, des quantités de choses à des musiciens qu'elle a vraiment énormément aidé. Et alors, quand on donnait ces choses, ça se passait comme ça dans sa grande salle de concert, car elle avait une immense salle de concert. Elle avait un fauteuil dont le dossier devait avoir peut-être 1,80 m de haut. Je n'ai jamais vu un dossier de fauteuil pareil. Elle s'asseyait devant tout le monde, devant ou le petit orchestre ou le pianiste, mais elle savait pertinemment que les gens ne venaient là que pour le caviar, le moum et autres merveilles. Et en général, les gens n'écoutaient pas. Alors elle s'était fait faire ce fauteuil qu'elle mettait environ à 1,50 m devant toutes les chaises dorées qu'on avait apportées dans l'après-midi. Et elle écoutait son concert et elle se contrefichait absolument de tout ce qu'il y avait derrière.
Ça, c'est dans un de ces deux palais de la musique successive de Paris. Il y a aussi le palais à Venise.
Il y a aussi un palais à Venise, effectivement, qui est la version vénitienne de ce qui se passe à Paris. Là, Jean Vienner parle effectivement du salon de la rue Cortambert, 200 places assises à peu près pour tous les musiciens, pour tous les auditeurs. Et peut-être on peut dire un mot du mécénat, de son rôle de mécène, parce que c'est là qu'elle est formidable. Cette femme a porté sur les fonts baptismaux, a porté même à la création toute la musique du début du XXe siècle. Debussy, Fauré, je ne parle que des plus célèbres, là, lui doivent à peu près tout. Mais elle a aussi,
Vous pensez à la génération d'après la guerre de 14.
Oui,
mais
c'est
là,
ça,
on va s'arrêter, nous, à l'avant 1914. Vous nous expliquerez quelle traumatisme a causé, évidemment, chez les Américaines de Paris, votre sujet, oui. Gérard Bonal, la guerre. On n'a pas de morceau qui associerait la lyre et la machine à coudre.
Non.
On a celui-ci de Satie, à quatre mains, Aldo Ciccolini, Gabriel Tacchino. Et ça s'appelle, c'est pas si mal trouvé pour notre sujet, La belle excentrique.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Des Américaines à Paris, c'est le titre d'un livre de Gérard Bonal qui vient de paraître chez Talendier, un bien beau sujet. Une faille est ouverte, évidemment, par la guerre de 14 chez ces femmes souvent opulentes et flamboyantes qui vont se consacrer, pour une part d'entre elles, à des tâches d'assistance, sans théâtre nécessairement.
Non, effectivement, bien, on parlait à l'instant de la princesse de Polignac. La princesse de Polignac va financer, pour Marie Curie, la transformation de voitures en centre de radiologie. Voilà. Et c'est ces voitures qui vont partir sur le front, qu'elle va payer tout, elle va payer les chauffeurs, elle va payer les unités radiologiques. Bon, par exemple, on a Gertrude Stein et Alice Toklas vont aller dans les hôpitaux porter des médicaments, des cigarettes, relever les besoins dont on a besoin, et surtout, nous avons Edith Wharton.
Alors expliquez qui est Edith Wharton et ce qu'elle fait pendant la guerre de 14.
Eh bien, Edith Wharton, c'est la romancière que tout le monde connaît, je pense, qui est l'amie de...
Tout le monde va connaître,
l'ami de Henry James, qui adore la France et qui voit la situation de la France qui est catastrophique pendant les premiers mois de la Première Guerre mondiale. Hein, mois d'août, on se demande vraiment, fin août, si les Allemands ne vont pas arriver à Paris dans le quart d'heure, si j'ose dire. Et donc, elle va, dans un premier temps, elle va créer des ouvroirs pour venir en aide à les femmes que le départ des hommes au front a laissé complètement démunies. Et ça, ça va être une grosse réussite qu'elle va prolonger pendant toute la durée de la guerre. Elle va également favoriser la levée de fonds aux États-Unis jusqu'à ce que les États-Unis entrent dans la guerre en 1917. Mais auparavant, par des voyages aux États-Unis, elle ou des gens qui travaillent avec elle, elle va faire venir des capitaux américains qui vont aider l'effort de guerre. Et surtout, elle va elle-même aller en voiture, avec un chauffeur bien sûr, jusque en première ligne. Elle va apporter des pansements, mais surtout elle est chargée officiellement par Jules Cambon. Elle est chargée de faire le relevé des besoins des hôpitaux de campagne, ces hôpitaux qui sont en première ou en deuxième ligne, et où on traite les blessés les plus graves avant de pouvoir les envoyer vers l'arrière.
Est-ce une des raisons pour lesquelles la génération suivante d'Américaines à Paris, celle des années 20, alors que Paris a la réputation d'être une ville toujours extrêmement brillante, folle, dit-on, semble, comment dire, plus réservé. Regardez les couleurs. Vous parlez de Alice Toklas et de Gertrude Stein. Encore un couple lesbien.
Oui.
Elles sont habillées de couleurs assez grises, assez neutres. Vous me direz qu'elles ont un peu la forme de couvre-théière pour l'une d'entre elles.
Je vous interromprai. Alice Toklas a un goût très bohème. Elle s'habille toujours comme une gitane avec des grands pendants oreilles. Quant à Gertrude Stein, au-dessus de cette tour considérable, eh bien, il y a toujours des chapeaux à fleurs et à fruits.
Bon, admettons.
Elle a l'air d'un panier de fruits.
Mais alors, dit un témoin. On va s'attarder sur Sylvia Beach. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est la fille d'un pasteur,
oui,
mais elle, encore une, qui a une allure de clergyman.
Ah ben, elle est toujours habillée dans un costume bleuâtre. C'est Eisenstein qui vient à Paris au début des années 20 et qui dit qu'elle a un vêtement de coupe masculine avec une jupe bleue, nuance bleue, et effectivement elle n'est pas aucune coquetterie.
Davantage des intellectuels, les femmes que vous décrivez dans les années 20.
On est entré dans une autre phase. Faudra peut-être faire le livre, mais il est déjà fait, de ces Américaines-là qui sont venues à Paris à ce moment. C'est fini, hein, les premières qui sont arrivées parce qu'elles fuyaient le puritanisme, comme le disait Sylvia Beach elle-même, eh bien, les suivantes ne fut plus rien du tout parce que, d'abord, il s'est un peu desserré, le puritanisme, quoi qu'il existe toujours, et puis tout est beaucoup plus libre partout, quoi.
Le livre a été fait notamment par Laure Murat qui parle pour ce réseau situé sur la rive gauche et pas du tout le quartier de la princesse de Polignac, d'Odéonie. Ce qui est assez joli parce qu'on sent dans Odéonie l'Odéon et Ondine aussi.
Oui, oui.
Parce que beaucoup sont lesbiennes.
Oui, il y en a aussi, mais il y en a beaucoup.
Bien sûr, Sylvia Beach. Notamment, alors, Sylvia Beach, elle a tenu une librairie avec sa femme et complice. Adrienne Monnier.
Enfin, chacune avait la sienne.
Oui.
Adrienne Monnier.
Les livres.
La maison des amis du livre.
Oui.
Et Sylvia Beach, c'était Shakespeare et compagnie.
Mais Shakespeare et compagnie qui existe encore.
Non, c'est plus le même.
C'est plus le même endroit.
C'est le même nom et ce n'est plus la filiation de Sylvia Beach. Hein,
d'accord.
Et
c'était passage de l'Odéon. Ça, c'était Adrienne Monnier qui était passage de l'Odéon.
Non, rue de l'Odéon. Mmh. Rue de l'Odéon, et c'était au 12 rue de l'Odéon qu'était Sylvia Beach. Et je pense qu'Adrienne Monnier était au 15, juste en face.
Et non seulement libraire, elle était aussi éditrice. Noël 1921 pénètre dans la boutique de Shakespeare & Co. James Joyce.
Il est venu et il était habillé d'une façon un peu poussiéreux, avec des chaussures de tennis blancs, mais sales, et un chapeau de feutre qu'il portait sur sa tête à l'arrière. Et puis il avait une canne qui tournait tout le temps.
Vous avez eu l'idée courageuse et presque audacieuse à ce moment-là de publier l'Ulysse de Joyce.
Je ne voyais pas de courage là, je trouvais que c'était à faire et c'était si intéressant et si amusant, mais je ne prévoyais pas les difficultés non plus.
Amusant et très aventureux, heureusement qu'il y avait d'autres femmes dans d'autres endroits du monde qui ont appuyé Sylvia Beach dans cette aventure. L'Odéonie.
C'est la rive gauche quoi.
C'est la rive gauche et rive gauche il y a rue Jacob. On va terminer avec cette figure monumentale. dans le 6e arrondissement, donc, une Américaine qui vit depuis la plus haute antiquité dans un jardin privé.
Oui.
Elle s'appelle
Nathalie Barney.
Elle est arrivée, donc, au moment des toutes premières générations.
Ah oui.
Et le pavillon qu'elle loue a une forme étrange.
C'est-à-dire qu'il y a d'abord un petit bâtiment de 2 étages, classique, très joli d'ailleurs, très très bon, qui a été décrépit par l'astuce. Mais dans le petit jardin attenant à ce pavillon lui-même, il y a un autre pavillon qui s'appelle le Temple de l'Amitié.
Où elle n'a cessé de recevoir pendant des dizaines et des dizaines d'années. Je vous propose qu'on l'écoute un instant et puis vous nous direz ce que vous savez de Nathalie Barney, que vous avez même vue, enfin un peu de loin.
De très loin.
Madame Barney, quand est-ce que vous avez ouvert votre salon littéraire? Et qui sont les premiers écrivains qui occupaient vos vendredis?
Eh bien, mon idée était que les Français, les Américains et les Anglais devaient se rencontrer et traduire le plus possible les ouvrages les uns des autres. Puis c'est devenu une chose bien connue. Les gens venaient, s'asseyaient sur des chaises et parlaient de leur art.
Quelques grands écrivains et artistes du siècle ont pris votre génie pour de l'amitié. Cette amitié est toujours une des valeurs les plus importantes pour vous?
Je pense que c'est la voie la plus durable et la plus libre pour faire passer les émotions. Et je suis très contente d'être la meilleure de notre temple. Je pense que je n'ai jamais abandonné mes amis. Eux m'ont abandonné, moi non, je ne les ai jamais abandonnés. C'est un sens de la loyauté et un choix.
1966, on est à la fin de sa vie, elle parle en anglais parce qu'elle s'adresse à un journaliste d'outre-Atlantique, elle qui ne sert pas des sandwichs, mais, écrivez-vous, des bouchers.
Alors,
des
oui,
bien sûr.
Des bouchers, bien sûr, oui, oui. C'est sa dame de compagnie, sa cuisinière, enfin, c'est cette femme à tout faire qui est d'origine très paysanne et qui le mot sandwich ne le connaît pas et qui parle de boucher. Paraît-il délicieuse.
Qu'est-ce que c'est pour elle, l'amitié? Et l'oisiveté, c'est aussi un moyen de cultiver l'amitié, et de cultiver sa personnalité.
Oui, mais elle a beaucoup écrit. Hein. Elle a écrit énormément. Elle a publié plusieurs livres. Elle a tenu ce salon pendant je ne sais pas combien d'années, pas dans des décennies entières, puisqu'elle est morte à l'âge de 96 ans.
En 72.
Et voilà. Et jusqu'au bout, elle a vraiment fréquenté les gens. Et l'amitié pour elle, bien, c'était, je crois que c'est ce temple de l'amitié qui jouxtait sa demeure était pour elle un symbole formidable. C'est, je pense que sa vie entière a tenu grâce à l'amitié.
Ce sont des femmes intermédiaires que vous décrivez. Des femmes qui font la médiation,
oui, qui font la médiation,
le passage.
Oui, oui, bien sûr, mais toutes, elle a fait le passage parce qu'elle était très amie, donc avec Roman Brooks, autre américaine. Elle a attiré dans son salon, j'emploie ce mot à dessein, toute la nouvelle génération qui venait la voir, et c'était un passage de relais, en quelque sorte, où elle donnait à des jeunes américaines, elle avait par exemple tous les mois, un déjeuner des Américaines, où il y avait, bon, Toklas, où il y avait Gertrude Stein, mais où il y avait aussi les jeunes Américaines à qui, en quelque sorte, elle passait le flambeau.
Eh bien, c'était un déjeuner d'Américaines que vous nous avez offert, sans sandwich, avec quelques bouchées, on peut vous lire, chez Talendier, des Américaines à Paris, Gérard Bonal. L'émission était préparée par Louise Arouin, Franck Olivard, Frédéric Martin, Linka Negulesco, la réalisation Audrey Ripouille, à la technique. Aujourd'hui, Patrick Henry.